Il n'y a pas que le 8 mars, mais là, on est le 5 mars et on ne peut pas faire comme si cette journée n'existe pas, alors on y va. La journée du 8 mars, non, c'est pas la journée de la femme, ça veut rien dire la journée de la femme, c'est tous les jours, tous les jours de l'année la journée de la femme. On se lève, on pense à la machine qu'il faut étendre, au goûter de la petite Juliette qu'il faut préparer pour l'école, au bus de 7h42 qu'il faut attraper, sinon c'est la galère pour arriver au bureau à l'heure. Non, le 8 mars... C'est pas ça. C'est une journée internationale qui met en avant la lutte pour les droits des femmes. En fait, c'est les Nations Unies qui décident en 1977 qu'il y aura une journée spéciale, mais depuis que les femmes ont des revendications du style « on veut participer à la vie politique en votant »,« on veut être payé comme nos maris et nos amis »,« on veut avoir l'autorité parentale »,« on veut choisir notre vie »,« avoir ou non des enfants », enfin... Depuis que les femmes s'organisent et posent des revendications, depuis longtemps, bien avant 77, il y a eu des grèves, des mouvements, des journées de la femme. Bah, par exemple, le 28 février 1909, c'en était déjà une, aux États-Unis. Et puis après, une autre journée internationale, celle-ci, le 19 mars 1911. Voilà, donc maintenant, c'est le 8 mars. Bon, pour ce qui est des détails, je pense que Marie, dans l'éphéméride, vous en comptera plus sur une grande figure de ces journées, Clara Zetkin. Je pense qu'elle va nous parler de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe tous les jours, des moments de revendication, des droits. Il y en a eu plein cette année sur les réseaux sociaux et dans les rues aussi. Mais ce qui nous intéresse, c'est la condamnation des violences faites aux femmes et des féminicides, évidemment. Mais aussi que les salaires soient les mêmes qu'on soit homme ou femme. Que celles qui font le ménage à 5 heures du mat, celles qui enregistrent les produits de notre chariot, par exemple au supermarché, celles qui changent nos papiers et nos mamies dans les maisons de vieux, celles qui nous apportent un calmant quand on est à l'hosto ou celles qui gardent nos gamins quand on travaille à la radio. Ce qu'on veut, c'est que toutes les femmes qui bossent aient la possibilité d'être autonomes financièrement, pas de petits boulots à temps partiel qui permettent pas de terminer le mois sans serrer la ceinture, pas de pression énorme qui font que c'est plus du boulot de bosser comme ça. Non, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les femmes aient du temps pour elles, pour imaginer, créer, penser, faire ce qu'elles ont envie. La liste est longue. Et comme cette journée est internationale, alors on veut aussi que les acquis d'ici soient appliqués aux femmes d'Égypte, d'Espagne, d'Argentine et de tous les ailleurs aussi. Ça, c'est ce qu'on en dit, nous. On a demandé aux animateurs de Radio B ce qu'ils voulaient en dire, eux, de cette journée. Alors, vous allez les entendre tout au long de cette émission.
She's a Cajun limbo, London by night, crushing lights and symbols, queens of twilight. And if I was you, I'd use a lubricant and long drive. We complement each other just like Satan and Christ.
Before me, I want to. venez d'écouter un morceau du groupe Noisette, donc c'est un son qui a été envoyé par Fabien. C'est un hommage à Sister Rosetta Tharpe, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est surnommée The Godmother of Rock and Roll. Je vous prie d'admirer mon accent anglophone, voire plutôt américain. Nous sommes au début des années 40 et dans une Amérique très conservatrice, c'est la première femme noire à oser prendre une guitare électrique. Vous êtes bien sur Radio B, il n'y a pas que le 8 mars. Aujourd'hui, nous gravitons autour de cette journée internationale des droits des femmes, même si, on vous le rappelle bien, il n'y a pas que le 8 mars. Pourquoi la laïcité est indispensable à l'émancipation des femmes ? Réponse avec Laurence Marchand-Taillade. Droit devant pour le 8 mars, mais pas que, ici et ailleurs. Et toujours notre rubrique culturelles, parce que le 8 mars inspire le monde du spectacle et les artistes. Pourquoi la laïcité est indispensable à l'émancipation des femmes ? Laurence Marchand-Taillade est présidente du mouvement Force Laïque et autrice de l'essai Urgence Laïque. Nous l'avons rencontrée lors de sa venue à Bourg-en-Bresse juste après sa conférence qui était dans le cadre de la semaine de la laïcité. C'est une interview sur ses convictions laïques et féministes. En quoi la laïcité peut émanciper les femmes ?
Bien, la laïcité peut émanciper les femmes tout simplement parce que quand on fait une lecture des textes, des principaux textes religieux, on se rend compte que la femme est assignée à son rôle de ventre, de matrice de l'humanité, et de ce fait, on a cherché absolument à lui retirer toutes les qualités d'un être humain à part entière. Et donc, laisser les religions entrer dans le débat politique, c'est leur laisser la possibilité de perpétuer ces traditions qui sont des traditions patriarcales. Donc la laïcité nous sauve, nous, femmes, justement, du poids des religions et nous permet cette émancipation qui ne pourrait pas avoir lieu si les religieux avaient toujours le pouvoir.
Et de quelle manière, par exemple ?
De quelle manière, par exemple, si on parle de l'accès à la contraception, puisque c'est justement le principal enjeu dans la religion, c'est de s'approprier le corps de la femme, on n'aurait pas pu avoir accès à la contraception dans un état complètement sous contrôle des religions. Donc, et on le voit très bien, d'ailleurs, sur les dernières manifestations qui ont eu lieu, notamment près de l'hôpital Tenon, pour manifester contre l'IVG, pour s'opposer à l'IVG, ou de l'entrisme qui est fait dans les plannings familiaux ou dans les conseils d'administration des hôpitaux pour baisser les subventionnements. Donc, la question, elle est vraiment centrale, et c'est l'enjeu central d'ailleurs, c'est le ventre des femmes.
Ouais, le ventre des femmes, matrice de l'humanité, elle va un peu vite, hein. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? Ouais, c'est vrai qu'elle était vraiment sur sa lancée après sa conférence. Voilà. En fait, un groupe, une société, si elle veut exister, se maintenir, voire prendre du pouvoir, a besoin d'exister en nombre. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la survie de l'espèce. C'est bien la femme qui fabrique les petits de l'espèce, en fait. Les religions ont toujours poussé et contraint les femmes à procréer pour cette raison, et les ont justement à signer à ce rôle seulement, voilà.
Pourtant, l'État français qui est laïque n'arrive pas à être le garant de l'égalité femmes-hommes de manière effective.
Mais oui, c'est bien le problème, c'est que évidemment ce poids est là, il est présent, dans les mentalités, donc on le voit bien dans les réactions des jeunes, par exemple dans le spectacle qui a eu lieu cet après-midi dans cette même salle, où deux jeunes garçons d'une quinzaine d'années disaient qu'ils n'étaient pas traités de la même façon que leur sœur faisait beaucoup plus de choses à la maison, et que finalement, renouveler ce modèle-là ne leur posait aucun problème. Donc il y a aussi, au-delà des traditions culturelles, les traditions culturelles à travailler, et là ça va prendre du temps.
Alors, on va parler du voile islamique, hein, puisque ça fait polémique en France depuis des années. Vous avez vous-même participé à la journée sans le voile, c'est bien ça le nom. En quoi le voile pour vous est synonyme d'oppression des femmes ?
Bien écoutez, je pense que la réponse, elle n'est pas en France. La réponse, elle est dans les pays où justement le voile est une obligation, dans des pays qui sont bercés par l'intégrisme, qui sont des pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran, où là, le voile n'est pas un choix, mais bien une obligation. Et donc là, on voit bien qu'il est le symbole des lois qui sont votées en parallèle, qui sont des lois de soumission des femmes. Donc accepter le port du voile dans un pays comme la France, c'est accepter un apartheid visible, puisque seules les femmes portent le voile, et c'est aussi de accepter donc tout ce qui va avec et qui sont plutôt des revendications politiques que des revendications religieuses.
Pourtant, il y a des femmes qui revendiquent vraiment leur liberté à porter le voile. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces femmes-là ?
Bah, je leur réponds qu'il serait peut-être bien qu'elles respectent leurs sœurs qui, elles, dans des pays islamistes, se battent pour ne pas le mettre et qui se battent au prix de leur vie la plupart du temps.
C'est pas compatible.
Pour moi, c'est pas compatible. On peut pas être féministe et revendiquer le port du voile.
Alors, moi, pour rebondir là-dessus, j'aimerais quand même vous parler d'une émission que j'ai écoutée, qui est le débat de midi sur France Inter, et qui s'intitulait « Un féminisme ou des féminismes », qui date du 27 juillet 2017. Donc, bien sûr, vous pouvez retrouver le podcast sur le site de France Inter. Et il y avait plusieurs intervenantes, dont deux femmes qui m'ont marquée. Donc, il y avait Réjane Sénac, dans un premier temps, qui disait « Il y a à la fois les parcours individuels qu'il faut respecter dans leur complicité » et espérer qu'ils mettent des brèches dans un système oppresseur. Et puis, il y avait Anan Karimi, si je ne me trompe pas, qui est musulmane et féministe, et qui dit « Porter le voile n'est pas antinomique à leurs besoins individuels d'émancipation des rapports de domination, qu'ils soient familiaux, communautaires, religieux et sociaux. » Voilà, ça permet d'apporter un petit éclairage, un éclairage un petit peu différent quand même. Dans l'imaginaire commun, une femme qui porte une jupe, des talons, c'est une femme qui est émancipée. Mais ça peut être peut-être aussi vu comme une aliénation au regard masculin.
Je pense que ce qui est important, c'est que la femme, elle se sente bien dans son corps. Qu'elle porte des talons, une jupe ou un fichu sur la tête, c'est pas la question. La question, c'est de savoir si elle en a fait le choix. Si on parle de, on reprend la question du voile, dans beaucoup de quartiers, de banlieues, de quartiers dans lesquels un certain nombre d'imams salafistes ont pris le pouvoir, la question de pouvoir ou de ne pas pouvoir porter le voile ne se pose plus. C'est-à-dire que sous la pression sociale, la pression familiale, la femme doit porter le voile si elle veut être tranquille. Donc elle peut même plus se poser la question de savoir si elle portera une jupe ou des talons. Elle n'a plus le choix. Et donc ce choix-là, si on veut pouvoir continuer à le revendiquer, bah, il va bien falloir à un moment se poser la question de ce que symbolise le voile. Et c'est certainement pas un symbole religieux.
Bon alors mesdames, vous avez quand même compris. Hein, vous êtes libres de porter ce que vous voulez si vous le choisissez. Mais en tout cas, le voile, c'est quand même pas trop votre choix.
Porter le voile en Iran ou en France, par des jeunes filles ou des femmes mariées, sous la contrainte sociale, politique ou par choix vestimentaire, moi je trouve que c'est vraiment très très complexe. On ne peut pas avoir une idée préconçue là-dessus. Peut-être pourra-t-on en parler une fois avec des femmes ou des jeunes filles de Bourg. Moi je suis certaine que ça pourrait être hyper intéressant et beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus de
nuances.
Ouais.
Alors, vous avez évoqué toutes les religions là pendant cette conférence, et c'est vrai qu'il y a une religion dont on parle très peu, c'est le bouddhisme.
Bah oui, effectivement, on se rend compte que le bouddhisme aussi est une religion très machiste et qui représente le corps de la femme comme quelque chose d'impur. Donc c'est quelque chose qui est en commun aussi avec les autres religions. Le corps de la femme est impur et surtout écartons-le de la société. Il ne faut pas le fréquenter, il ne faut pas le côtoyer.
Vous êtes féministe et vous avez confié être vous-même croyante. Comment vous composez avec ces deux aspects-là ?
Alors, j'ai pas dit que j'étais croyante, mais j'ai pas dit non plus que j'étais athée. C'est ça la particularité, c'est que je garde ma conviction personnelle pour moi-même parce que je m'investis aussi politiquement et je considère que si un jour je devais être amenée à représenter des électeurs, eh bien cette représentation, elle doit aussi être respectueuse de leurs propres croyances. Et donc c'est pour ces raisons-là que je ne fais pas étalage ni de ma croyance ni de mon athéisme. Je considère que c'est quelque chose qui me regarde complètement. Et comment j'arrive à le concilier ? Là, par contre, je vais vous confier quelque chose de personnel. J'ai deux filles, l'une des deux est totalement athée et se refuse à rentrer dans un quelconque lieu de culte, et l'autre a été croyante, pratiquante pendant très longtemps, a eu un parcours religieux tout à fait exemplaire, et je me suis opposée ni à l'une ni à l'autre parce que c'est ça la laïcité, c'est la liberté justement de pratiquer son culte et la liberté de conscience. Donc si j'ai pas envie, je fais pas, si j'ai envie, je fais, mais il n'y a personne qui empêche.
Bon, on a beaucoup parlé du voile avec Laurence Marchand-Taillade et aujourd'hui ça tombe bien parce que ça bouge bien en Iran. Partout dans le pays, des femmes ont protesté en montant sur des armoires électriques, en enlevant leur voile et en les agitant en l'air sur des bâtons. Un certain nombre sont passés derrière les barreaux, c'est quand même cher payé quand on se bat pour ses droits.
À suivre tout ce qui se passe là-bas parce qu'il y a l'histoire du voile, mais il y a d'autres choses aussi de fond qui se passent aussi.
Solidarité !
On vous l'a annoncé tout à l'heure, les animateurs de Radio B ont aussi la parole aujourd'hui. Et voilà Michel Seltzou. Alors attention, enclenchez le mode second degré tout de suite.
La journée de la femme, et puis quoi encore? Et pourquoi pas la journée de l'homme? Si on commence à genrer les fêtes, on ne s'en sortira plus. La fête de la femme, c'est quand même tous les jours. Elles ont le droit de conduire, même en Arabie Saoudite. Elles ont le droit de prendre la pilule du lendemain sur prescription médicale, même en Pologne. Elles ont le droit d'effectuer leur service militaire, même en Israël. Elles ont le droit de faire la cuisine et s'occuper des enfants, comme dans tous les pays. Bon, c'est vrai, les femmes de conditions modestes ont le droit de vivre moins longtemps que les femmes aisées, comme en France. Elles ont le droit d'être premier ministre d'un gouvernement, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne. Elles ont le droit de chanter de la variété, comme partout dans le monde. Elles ont le droit de jouer au football et d'avoir la même coupe de cheveux que les hommes, comme sur tous les terrains. Les femmes ont même le droit de nous apprendre à devenir des citoyens. Le 8 mars, mais pas seulement, elle sera notre maîtresse, notre maîtresse d'école.
La maîtresse est stressée. Faut dire qu'aujourd'hui, elle se fait inspecter. Même si elle est habituée, elle a tout bien rangé. Elle a dit, je suis malade, ne me faites pas crier. La maîtresse est flattée. Il y a un ancien élève qui est venu l'embrasser. Il est fier d'être inscrit à la fac de Saint-Denis. Il lui a dit, vous êtes toujours la plus jolie. La maîtresse est soulagée. Hier soir, le spectacle s'est bien déroulé. Il a un peu plu, mais les parents étaient contents. Elle a versé une larme pour les applaudissements. Elle se souvient de la journée à la mer et de ces gamins qui avaient jamais goûté à l'eau salée. Elle se souvient de la classe de neige comme hier et de ces gamins qui avaient jamais vraiment bien vu l'hiver. Bien vu l'hiver.
Joël, heureusement que tu nous as dit de nous mettre en mode second degré, parce que là, je t'avoue que j'ai failli m'étouffer en écoutant Michel.
Donc c'était
voilà, c'est la musique que Michel nous a proposée pour ce 8 mars. Loïc, qui est animateur de l'émission Des Assos, nous a envoyé quelques chiffres qui révèlent bien les inégalités dans le monde associatif. C'est l'Observatoire de la vie associative, donc, qui a été sorti en 2014 sur l'agglo de Bourg-en-Bresse, qui nous montre que 54% des dirigeants associatifs sont des hommes. Ça monte à 69% chez les présidents et 55% chez les trésoriers. Le pouvoir est aux hommes. La fonction de secrétaire est quant à elle détenue à 64% par des femmes. Et dans l'Ain, 53,6% des hommes qui travaillent dans une association sont à temps plein, contre seulement 40,8% pour les femmes. Voilà, hein, rien d'étonnant, ça ne change pas d'un secteur à l'autre. On peut imaginer que dans d'autres milieux, les écarts sont encore plus importants dans le partage des responsabilités. Le Haut Conseil à l'égalité vient de remettre son rapport sur les inégalités femmes-hommes dans les arts et à la culture. À la ministre Françoise Nyssen. Un seul chiffre, 97% des groupes programmés par les grands festivals de musique sont composés exclusivement ou majoritairement d'hommes.
Voilà, donc on peut lire ce rapport en allant voir sur Internet, mais ce chiffre était quand même éloquent. C'est pire que dans le monde associatif, qui est quand même un monde, on va dire quand même, qui est relativement équilibré, relativement. Voilà, donc ici, pour faire avancer les droits existants, bah, qu'est-ce que les organisations politiques, syndicales et les assos féministes proposent à Bourg? J'ai été un petit peu à la pêche, alors j'ai trouvé des textes collectifs nationaux qui ont été relayés sur les réseaux sociaux, et puis des appels à la grève à partir de 15h40, hein, qui sont renouvelés, des rencontres sur les marchés, à Fléria aussi des rencontres, enfin par différents partis. L'année passée, nous nous sommes retrouvés sur le Square Joubert. Je sais pas si tu t'en souviens.
Oui,
nous,
si,
c'était
si,
voilà, le collectif féministe et le groupe Femmes Mixité CGT.
Ouais.
Cette année, alors j'ai essayé de les, enfin je l'ai pas essayé, je les ai contactés et ce groupe me disait que cette année, non, ils font pas un endroit où ils resteraient confinés rien qu'avec des militants et qu'ils allaient au contact des gens et des débats dans les entreprises. Donc, en fait, ils ont fait des petits badges rigolos qui ont été fabriqués avec travail égal, salaire égal, par exemple. Et puis, leur slogan, je trouve, l'égalité n'a ni sexe ni couleur. Au travail, dans la rue, à la maison, revendiquons l'égalité. On imagine que ça va causer hein, dans les entreprises. Tu sais à quoi ça correspond, toi, la grève de 15h40
Ouais. Ouais, c'est l'horaire à partir duquel les femmes arrêtent d'être payées si on prend en compte en fait, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes.
D'accord, ok. Donc, appel à la grève. Enfin, vous écoutez quand même la radio parce que je pense que ça sera à ce moment-là qu'on, qu'on passe. Alors, il y a eu plein de propositions qui sont faites. On a reçu ça. C'est incroyable le nombre de manifestations qui existent autour du 8 mars. Parmi toutes les propositions faites autour de cette journée, une autre façon de faire évoluer les choses. Le comité départemental olympique et sportif reste dans son domaine de sport. Il amène les femmes à pratiquer tous les sports. Et cette année, alors, ils ont organisé une sortie lundi, je crois, journée randonnée et musée. Alors, cette année, une centaine de femmes à peu près a été invitée à participer à cette journée. Le but est de faire découvrir l'activité randonnée et puis aussi le musée du Revermont. Alors, c'est une activité qui est proposée sur le temps scolaire, ce qui permet aux femmes avec enfants scolarisés de participer à la journée. Prendre du temps pour soi, bah pourquoi, c'est pas mal, hein, ça permet de causer, c'est déjà pas mal.
Oui, alors prendre du temps pour elle, moi là je vais en profiter pour pousser un petit coup de gueule hein, qui me tient un peu à cœur parce que chaque année je dis la même chose. Pour le 8 mars qui est la journée internationale des droits des femmes, on voit fleurir des ateliers maquillage, coiffure et autres séances bien-être. Moi je trouve que ces animations, elles enferment les femmes dans des stéréotypes de genre. Alors après, quand j'interpelle les centres sociaux, par exemple, ils me répondent que ces animations, elles permettent d'approcher des femmes qui ne sont pas forcément des femmes militantes. Alors si on en profite pour aborder des sujets sur la condition des femmes, etc., moi je dis pourquoi pas.
Chut ! Chut ! Culturels !
Allez, il se passe quand même des choses intéressantes autour du 8 mars. Cendrillon fait grève.
Attends, elle est syndiquée ?
Oui, on dirait bien. Elle lance le mouvement. Alors, si Cendrillon s'y met, moi je dis, on s'y met toutes. C'est le point de départ d'une pièce de théâtre qui est jouée par Karima Ghellani. C'est à la MJC d'Ambérieu en Bugey le 17 mars à 20h30.
À Arphonème, le clitoris et Freud, le 8 mars à 21h. Les 200 clitoristes et Marie Bonaparte, ce serait l'échantillon que la princesse de Grèce dit avoir constitué pour son étude morphologique, destinée à valider sa thèse sur la fragilité féminine. Étonnant ?
Un peu, ouais.
Un peu, ouais. Du coup, j'ai téléphoné un petit peu à Arphonème pour leur demander ce que c'était que ce truc-là, est-ce que c'était de l'humour, je sais pas quoi. Eh bien, pas que, c'est pas que de l'humour. C'est Xavier Bernard, qui est un psychologue clinicien, qui vient en parler sérieusement, mais pas que. Il y aura aussi des lectures, des petites lectures. Une soirée donc, qui est construite exprès pour cette journée. En tout cas, moi, c'est sûr, ça me donne envie d'aller voir.
Oui, et puis le clitoris, c'est vraiment une thématique qui est très étudiée en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sortent et c'est tant mieux parce que ce clitoris, il a été découvert, puis oublié, puis redécouvert, puis oublié. Donc là, je pense qu'on est encore en train de le redécouvrir.
Voilà, c'est ça. Bon, et puis nos animateurs Radio B pendant ce temps. Eh ben, de l'universel, avec cet enregistrement de Michel Béraud qui nous a envoyé. Il s'agit d'un Stabat Mater moderne, parole de femme traitant de la guerre et des souffrances profondes qui y sont liées.
Je sais ce que tu penses, homme de guerre. Dis-le donc, que mon émotion est niaise, que mon émotion est émouvante, mais niaise. Parce que la guerre n'est pas un sentiment. Qu'il est juste que pleurent la mère et la fille, mais ce n'est pas de ton ressort. Qu'il faut bien que quelqu'un assume malgré bon gré le mécanisme tragique des effets et des causes, qu'il y a contrainte, et qu'assumer la contrainte malgré soi, C'est cela le sérieux de la guerre. Que cela à côté du malheur, je puis bien le comprendre. Non, eh bien non, je ne comprends pas. Je suis celle qui ne veut plus comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà accepter. Oui, je venais pour comprendre. Et j'ai compris que comprendre, c'était trahir. Je venais pour t'implorer, homme qui fait la guerre comme le pommier fait ses pommes. Et j'ai compris que t'implorer, c'était me soumettre à tes raisons. C'était me mettre à genoux pour ramasser les pommes de l'arbre de la guerre. Furieuse je suis, furieuse mère, furieuse fille, furieuse sœur. Ma fureur est sans geste, sans coup, sans cri, mais elle est implacable, nette, sans élan, et définitive, voilà. Ma fureur est un refus définitif, le refus que désormais tu me reconnaisses pour tienne. Je n'appartiens qu'à la vie et tu as trop fait contre la vie, méthodiquement, consciencieusement, contre la vie. Je suis la mère furieuse et je me tiens debout.
Notre émission touche à sa fin, je sais, vous êtes vraiment très triste. Vous venez d'écouter « Y a pas que 8 mars » animé par Joël et moi-même Alicia. Et parce qu'en une journée, on n'a pas pu célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité, sur Radio B, il y en a plein qui se sentent concernés et qui font ou feront une émission dédiée. Laurence nous a invités dans Idéalire pour présenter différents bouquins qui parlaient de sexualité, le corps des femmes. Fred de Solid Rock et son compère Phil vont faire une émission spéciale. On ne sait pas quand, on n'a pas l'information, mais en tout cas, restez sur les ondes de Radio B. Et puis également, hashtag ultrasonore demain soir. Nous remercions Pauline Bussy pour sa participation à la technique qui, depuis le début, voilà, assure notre technique et que nous avions carrément zappé dans nos remerciements de fin d'émission.
En tout cas, mille excuses Pauline. Aujourd'hui, c'est une co-réalisation sous l'égide de Élodie Gadiolet. Merci à vous tous qui avez répondu à notre invitation. Rendez-vous pour le prochain, il n'y a pas que le 8 mars, lundi 2 avril. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission comme d'habitude en podcast sur www.radio-b.fr. Restez à l'écoute de Radio B à suivre. Et pour terminer, merci Marie pour ta proposition avec Jeanne Chéral.
Pour le haut plateau de Belleville, d'où je vois toute la ville, et pour le vent qui tourne autour des fenêtres de la tour, pour le trottoir ruisselant, pour le café, les croissants, et pour l'accordéon qui boite au fond du souterrain moite, pour la nuit sur les bateaux mouches, et pour ça. Générations futures pour ce plaisir qui nous dépasse.